Charles et Mary Lamb, conte tiré de Shakespeare, Timon d'Athènes. Timon, seigneur athénien, jouissait d'une fortune princière et affectait une libéralité sans limite. Bien que ses revenus fussent presque incalculables, ils avaient peine à rentrer assez vite dans ses coffres forts, tant il avait hâte d'en faire profiter toute espèce de parasite. Non seulement les pauvres avaient part à ses munificences, mais il ne manquait pas de grands seigneurs qui ne dédaignaient pas de vivre de ses largesses. Tout ce qui menait grande vie à Athènes aimait à s'asseoir à sa table, et sa maison était ouverte à tout venant. Cette réunion chez un même homme, d'une richesse immense et d'une nature prodigue et sans contrainte, devait lui assujettir tous les cœurs. Aussi recevait-il des offres de service de gens de tout acabit, depuis le flatteur au masque transparent qui reflète comme un miroir la disposition d'esprit de son protecteur, jusqu'au cynique impudent et sans souplesse qui affecte le mépris des personnes et l'indifférence pour les choses de ce monde, mais ne pouvait résister aux gracieuses façons et à la magnétique générosité de Timon, dont il venait, en dépit qu'il en eût, partager la chair toute royale, grandi qu'il se trouvait de 100 coudées dans sa propre estime, si le noble dissipateur l'avait honoré d'une légère inclination de tête ou d'un salut. Un poète écrivait-il des vers qu'il voulait lancer dans le monde, vite il les dédiait au seigneur Timon. Les vers étaient dès lors assurés d'un succès d'argent, sans compter la bourse que Timon faisait tenir à l'auteur, devant qui s'ouvrait aussi sa maison et sa table. Un peintre avait-il un tableau à vendre, il le portait au seigneur Timon, sous prétexte d'en avoir son avis. Cela suffisait pour que celui-ci l'achetât, séance tenante. Le palais de Timon était pour les joailliers et les marchands de riches étoffes un marché où ils pouvaient toujours se défaire, sans crainte qu'on les marchandât, de leurs bijoux de prix et de leurs coûteux tissus. Bien mieux, l'excellent homme les remerciait encore avec effusion, comme s'il estimait une courtoisie qu'on lui offrit de préférence ses précieuses superfluités, dont sa maison était remplie, sans autre avantage que d'ajouter chaque jour quelque encombrement nouveau à cette pompe fastueuse et pleine d'ostentation. Et c'était pire encore, quant à sa personne, qu'assiégeait sans cesse une foule de visiteurs désœuvrés, poètes amis du mensonge, peintres, requins déguisés en marchands, seigneurs, grandes dames, courtisans besogneux, solliciteurs de toutes plumes qui, sans relâche, se pressaient dans ses couloirs, inondant ses oreilles de cyniques flatteries murmurées à voix basse, l'adulant à l'égal d'un dieu, déclarant sacré l'étrier même où il s'élançait sur son cheval, et semblant ne respirer l'air libre que par un effet de sa bonté et avec sa permission. Parmi ces parasites quotidiens se trouvaient de jeunes nobles dont l'extravagante façon de vivre n'était nullement en rapport avec leurs revenus. Mis en prison par leurs créanciers, ils en avaient été retirés par Timon, à qui les jeunes fous s'étaient naturellement accrochés depuis, comme si quelque commune sympathie devait le rendre forcément cher à tous ces gaspilleurs aux mœurs lâches qui, ne pouvant le suivre sur le terrain du revenu, trouvaient plus commode de copier sa prodigalité en dépensant largement ce qui ne leur appartenait pas. L'une de ces mouches bleues était Ventidius, pour les injustes dettes duquel Timon avait tout récemment payé 5 talents. Mais, au milieu de ce déluge de visiteurs, les plus en évidence étaient, sans contredit, les faiseurs de présents et les donneurs de cadeaux. C'était une bonne fortune pour ces gens-là lorsqu'un de leurs chiens, de leurs chevaux, ou quelque partie sans valeur de leur ameublement venait à plaire par hasard à Timon. Celui-ci s'avisait-il d'en faire l'éloge? Dès le lendemain matin, il recevait l'objet avec les compliments de l'expéditeur et ses excuses pour le peu de mérite du présent. Et comme Timon ne voulait pas être en reste de générosité, il ne manquait jamais d'envoyer 20 chiens ou 20 chevaux pour un, et tous de plus grande valeur que ceux qu'il avait reçus. Ses prétendus donateurs s'y attendaient de reste, sachant bien qu'ils avaient ainsi placé leur argent à gros et prompt intérêt. Le seigneur Lucius, par exemple, avait envoyé à Timon 4 chevaux blancs comme le lait et harnachés d'argent qu'il l'avait entendu louer. Un autre, Lucullus, lui avait présenté, toujours à titre gracieux, un couple de lévriers, dont il avait admiré la finesse et la célérité. Timon, avec sa complaisance ordinaire, avait accepté ces prétendus cadeaux sans soupçonner les visées déshonnêtes de ses amis et leur avait naturellement envoyé en retour un diamant ou quelques joyaux valant 20 fois plus que leurs dons perfides et mercenaires. Parfois, ces êtres sans scrupules allaient plus directement au but et affectaient d'admirer et de louer quelque objet appartenant à Timon ou quelque nouvelle acquisition faite par lui. Sans doute la ruse était grossière et palpable, mais le crédule Timon était trop aveugle pour la remarquer et, n'écoutant que son bon cœur, il s'empressait de donner et de donner encore sans qu'on lui eût rendu pour cela d'autre service que de se mettre facilement en frais de quelque misérable et évidente flacornerie. Il n'y avait guère que quelques jours qu'il avait ainsi donné à l'un de ses piètres sires le beau cheval bai qu'il montait lui-même, tout simplement parce qu'il avait plu à sa seigneurie de dire qu'elle n'avait jamais vu si superbe bête et si parfaite allure. Timon savait que l'on ne loue avec impartialité que ce que l'on désire posséder. Il jugeait d'ailleurs l'affection de ses amis par celle qu'il leur portait lui-même, et sa passion de se dépouiller pour les autres était telle que, s'il l'eût pu, il leur eût distribué des royaumes, et cela sans jamais se lasser. Il ne faudrait pas croire, cependant, que toute la richesse de Timon passa aux mains de ces vils flatteurs. Il savait, à l'occasion, être vraiment grand et généreux. Ainsi, l'un de ses serviteurs s'étant épris de la fille d'un riche Athénien qu'il ne pouvait obtenir à cause de la disparité de rang et de fortune, il donna, de son propre mouvement, 3 talents d'Athènes à ce serviteur, qui fut ainsi mis à même de constituer le douaire que le père de la jeune fille exigeait de l'homme qui la rechercherait en mariage. Mais ce n'était là qu'une exception, et il laissait la plus grande part de sa fortune à la merci des gens sans conscience et de parasites, faux amis dont il ignorait la duplicité, et à l'amour desquels il avait la faiblesse de croire, parce qu'il se poussait près de sa personne, lui souriant et le flattant à qui mieux, ce qui lui suffisait pour qu'il crût que sa conduite avait l'approbation de tous les gens de bien. Et quand il festoyait au milieu de tous ses adulateurs et de tous ses faux amis, quand il dévorait son bien et mettait à sec sa fortune en buvant sans mesure ses vins les plus recherchés, il ne pouvait discerner dans cet toast porté à sa santé et à son bonheur la voix de l'amitié de celle de la basse flatterie. À la vue de tant d'admirateurs, il se sentait le cœur plein de fierté et considérait comme une précieuse jouissance d'avoir tant d'amis, ressemblant à autant de frères qui disposeraient réciproquement de leur fortune pour le bonheur commun. Et cependant, c'était sa fortune à lui qui payait tous les frais, ce qui expliquait l'allégresse avec laquelle on se pressait au spectacle de ce qu'il prenait, dans sa démence, pour des agapes vraiment joyeuses et fraternelles. Et pendant qu'il poussait à cette extrémité les exagérations de sa noble nature, et vidait ses coffres aussi allègrement que si Plutus, le dieu de l'or, eût été son caissier, pendant qu'il dépensait sans rime ni raison, avec une insouciance telle qu'il ne voulait ni savoir comment il pourrait maintenir pareille prodigalité, ni modérer la folle exubérance de ses désordres, ses richesses, qui n'étaient pas infinies, se fondait forcément chaque jour au soleil de sa colossale prodigalité. Mais qui donc eût voulu le lui dire? Ses flatteurs? Ils avaient trop grand intérêt à lui tenir les yeux fermés. Seul son honnête intendant, Flavius, essayait, mais en vain, de lui représenter, comptes en main, la condition de ses affaires, qu'il le suppliait les larmes aux yeux, avec une insistance qui, en toute autre occasion, eût été inconvenante chez un serviteur, d'examiner sérieusement par lui-même. Timon changeait alors la conversation, car s'il est quelqu'un au monde qui ferme l'oreille à une remontrance et soit moins disposé à envisager franchement sa situation, c'est bien le riche en train de devenir pauvre par sa faute. Il est dur, en effet, de se persuader que l'on marche à la ruine. Souvent, cet honnête et bon Flavius n'avait pu supporter la vue des gloutons dissolus et bruyants qui remplissaient à s'étouffer toutes les chambres du vaste palais de son maître et, dans leur ivresse, souillées de ses vins les plus précieux, les tapis des appartements ruisselants de lumière et pleins du fracas des instruments de musique et des bachiques chansons. Alors l'excellent homme se retirait dans quelque coin solitaire et ses larmes, coulées plus vite que le vin gaspillé par les convives, en songeant à la folle générosité de son maître. « Quand il n'y aura plus rien, pensait-il, de ces richesses qui le font encenser par tant de fourbes, combien vite s'évanouira le souffle qui engendre toutes ces flagorneries. Le jeune aura tôt fait de tuer ce concert de louanges de déjeuneurs, et toutes ces mouches fuiront au premier nuage, annonçant les averses de l'hiver. » Le jour vint, en effet, où Timon ne put davantage rester sourd aux représentations de son fidèle intendant. Il fallut de l'argent à tout prix, et quand il donna l'ordre à Flavius de vendre quelques terres pour s'en procurer, celui-ci, alors écouté pour la première fois, lui déclara que la plus grande partie de ses propriétés était déjà vendue ou confisquée. Il lui restait à peine de quoi payer, avec tout ce qu'il possédait encore, la moitié de ses dettes. Frappé d'étonnement à cette révélation, Timon répliqua vivement que ses domaines s'étendaient d'Athènes à Lacédémone. « Oh, mon bon seigneur !» s'écria Flavius, « tout vaste qu'est le monde, il n'est pas infini. S'il vous appartenait et que vous le donniez tout d'une haleine, vous l'auriez bientôt perdu. » Timon se consola par la pensée qu'il n'avait employé jusque-là sa fortune que pour prouver son affection à ses amis. S'il avait manqué de sagesse, il n'avait commis aucune vilenie ni sacrifié à ses passions. « Ne pleure pas, » dit-il avec bonté à son intendant qui gémissait. « Sois assuré que ton maître sera toujours riche tant qu'il aura d'aussi nombreux et d'aussi nobles amis. » Pauvre aveugle, qui pensait n'avoir qu'à se présenter pour qu'aussitôt ceux qu'il avait comblés de ses bontés missent leur fortune à sa disposition, comme il avait fait pour eux de la sienne. Rasséréné par cette perspective, comme s'il n'avait aucun doute du succès, il dépêcha des messagers aux seigneurs Lucius, Lucullus et Sempronius, auxquels il avait prodigué tant de faveurs, et n'oublia pas Ventidius, dont il avait payé les dettes et qui, par la mort de son père, était devenu le maître d'une fortune amplement suffisante à payer de retour la courtoisie de son protecteur en lui rendant les 5 talents qu'il en avait reçus. De chacun de ces nobles obligés, Timon ne demandait que le prêt de 50 talents, alors qu'il était bien persuadé que, dans leur gratitude, ils n'hésiteraient pas, s'il le fallait, à lui avancer 500 fois cette somme. C'est Lucullus qui reçut le premier message. La nuit précédente, cet abject gentilhomme avait rêvé qu'il recevait un bassin et une coupe d'argent, et quand on lui annonça le serviteur de Timon, il ne douta pas que son rêve sordide ne fût sur le point d'être réalisé. Sûrement, Timon lui envoyait ce riche présent. Mais quand il apprit qu'en réalité celui-ci avait besoin d'argent, il donna de suite la mesure de sa fausse et superficielle amitié. Il se confondit en protestations de dévouement à sa façon, jurant qu'il y avait longtemps qu'il avait prévu ce désastre et 100 fois n'était venu dîner chez Timon que dans l'intention de le lui dire. S'il était aussi venu souper chez lui, c'était avec l'idée bien arrêtée de le persuader de restreindre ses dépenses. Mais Timon n'avait jamais voulu comprendre que sa présence, à lui, Lucullus, était un conseil et un avertissement. Impudent mensonge, en vérité, car s'il avait en maintes occasions importantes éprouvé la générosité de Timon, s'il avait, comme il le disait, assidûment participé à ses festins, jamais il ne l'avait fait avec l'intention dont il se targuait. Jamais il ne lui avait donné un conseil, ni adressé un reproche. Bref, il finit par offrir de l'argent au messager pour qu'il allât dire à son maître qu'il n'avait pas trouvé chez lui le seigneur Lucullus. Celui qui se présenta chez Lucius n'eut pas plus de succès. Ce fourbe, tout engraissé des festins de Timon, riche à en crever des dispendieux cadeaux de Timon, n'eut pas plutôt compris que le vent avait tourné et que la source de tant de munificence s'était soudain tarie, que, le premier mouvement de surprise passé, il se dit profondément désolé de n'être pas en mesure d'être utile à son ami ruiné. Il avait malheureusement, la veille même, fait des achats considérables qui avaient mis sa bourse à sec. C'était un odieux mensonge, mais il ne s'en qualifiait pas moins de créature stupide pour n'avoir pas gardé de quoi obliger un si généreux ami. Ce serait, disait-il, un des plus grands chagrins de sa vie de s'être trouvé ainsi dans l'impossibilité de rendre service à un si honorable gentilhomme. Qui donc peut donner le nom d'ami à l'homme qui plonge au même plat que lui, comme le fait tout adulateur? Tout le monde à Athènes savait que Timon avait été un père pour ce Lucius, avait soutenu son crédit de sa bourse, payant les gages de ses serviteurs et des ouvriers qui suaient à bâtir les superbes maisons que réclamait l'orgueil de ce faux noble. Et ce même Lucius refusait aujourd'hui à Timon une somme qui, comparée à ce que lui avait donné ce gentilhomme, n'équivalait pas à la piètre aumône que l'on jette à un mendiant. Oh, en quel monstre se transforme l'homme quand il se fait ingrat! Sempronius et chacun des nobles mercenaires auxquels Timon s'adressa tour à tour lui firent quelque évasive réponse ou refusèrent net. Vintidius lui-même, le riche Vintidius, aujourd'hui libre de toute dette, refusa de lui prêter les 5 talents que Timon ne lui avait pas prêtés, lui, mais généreusement donnés au jour de détresse. Et maintenant qu'il était pauvre, Timon se vit éviter avec autant de soin qu'on le recherchait et le courtisait au temps de sa richesse. Les mêmes langues qui avaient chanté si haut ses louanges, exaltant sa bonté, sa libéralité, sa main toujours ouverte, n'avaient pas honte de traiter maintenant cette bonté de folie, cette libéralité de profusion, bien que la seule folie eût été de sa part d'avoir choisi d'aussi indignes créatures pour les combler de ses faveurs. Désormais, le palais de Timon fut considéré comme un lieu qu'il fallait fuir et détester. Ce n'était plus, comme jadis, le rendez-vous où chacun venait goûter les vins exquis et les viandes délicates. Au lieu des convives tumultueux et festoyants, on n'y voyait plus que la foule impatiente et clabaudeuse des créanciers, usuriers et extorqueurs, violents et intolérables dans leurs réclamations, exigeant des sécurités, des intérêts, des hypothèques, hommes au cœur de bronze qui ne souffraient ni refus ni délai. La maison de Timon était maintenant sa prison. Il ne pouvait ni en sortir ni y rentrer sans qu'il se vît assiégé par ses sangsues. L'un lui réclamait 50 talents, l'autre lui présentait une facture de 5000 couronnes. Eût-il voulu les payer avec son sang, goutte par goutte, il ne s'en fût pas trouvé assez dans tout son corps pour les satisfaire. Tout à coup, au moment même où tout semblait fini pour lui, ce soleil couchant sembla se parer d'un nouveau lustre et éblouit tous les yeux d'incroyable splendeur. Une fois de plus, le seigneur Timon annonça une grande fête à laquelle il invita ses hôtes d'autrefois, seigneurs et grandes dames, tout ce qu'Athènes avait de puissant et de fashionable. Lucius vint, et Lucullus, et Vintidius, et Sempronius, et le reste. Comment dépeindre la consternation de ces chiens couchants quand ils virent et crurent que la pauvreté de Timon n'était que factice et destinée à éprouver la sincérité de leur affection? Avait-il été assez sot de ne pas percer cette ruse à jour, alors qu'il pouvait à si bon marché se faire, en l'obligeant, une réputation de générosité? Quelle joie, cependant, de retrouver, fraîche et vive, cette source de munificence qu'il avait cru desséchée à jamais! Et comme ils protestèrent, les dissimulés, de leur profond chagrin, de l'humiliation qu'ils ressentaient d'avoir été malheureux pour n'avoir pas eu sous la main les moyens d'obliger un si respectable ami. Mais Timon les supplia de ne pas se préoccuper de pareilles bagatelles qu'il avait, lui, complètement oublié. Et ces êtres rampants qui lui avaient refusé leur bourse dans son adversité se gardèrent bien de lui refuser leur présence maintenant que la prospérité lui revenait avec un éclat tout nouveau. C'est que l'hirondelle ne suit pas l'été avec plus de joie que ne le fait ce genre d'homme pour les bonnes fortunes des grands. Et de même que cet oiseau s'empresse de fuir devant l'hiver, ainsi font les hommes, vrais oiseaux d'été, à la première apparition de l'infortune. Enfin, le banquet commença en grande cérémonie et au son de la musique. Les tables se couvrirent de plats fumants, et quand ses hôtes se furent bien émerveillés de voir un festin si pompeux, se demandant s'ils rêvaient et n'en croyaient pas leurs yeux, les plats furent découverts soudain à un signal donné. Alors apparut le dessin de Timon. Car au lieu des 1000 mets exquis et recherchés qu'il avait coutume de leur offrir, ils n'aperçurent dans toute cette brillante vaisselle d'or et d'argent qu'un peu d'eau chaude et de fumée, plus en rapport avec la pauvreté de leur hôte et bien digne de cette poignée de soi-disant amis dont toutes les protestations n'étaient que fumées et les cœurs aussi tièdes, aussi inconsistants que l'eau qu'ils leur présentaient. Allons, chien, avait crié Timon à ses convives ébahis, découvrez vos plats et lapez. Et avant qu'ils eussent pu revenir de leur surprise, il les avait aspergés en plein visage pour qu'ils en eussent leur content, disait-il, et il leur lançait à la tête les plats et tout ce qui lui tombait sous la main. Ce fut une admirable déroute, seigneurs et grandes dames s'enfuyant pêle-mêle et s'encapuchonnant à la hâte, pendant que Timon les poursuivait, les appelant comme ils le méritaient, parasites au sourire mielleux, masques courtois de mortels ennemis, loup plein d'affabilité, ours à pattes de velours, fou de fortune, ami de jours de fête, mouche d'occasion, etc. Mais eux, dans leur précipitation de le fuir, quittaient sa maison plus volontiers qu'ils n'y étaient entrés, les uns perdant leurs manteaux et leurs capes, les autres leurs bijoux, tous heureux d'échapper à l'accès de folie de Timon et au ridicule de ce burlesque banquet. Ce fut la dernière fête que donna Timon. Et par elle, il prit congé d'Athènes et de la société des hommes, car à dater de ce jour, il vécut dans les bois, répudiant cette ville abhorrée et l'humanité tout entière, souhaitant que les murs de la cité maudite s'écroulassent et que les habitants en fussent ensevelis sous leur demeure. Dans sa colère, il appelait sur le genre humain tous les fléaux à la fois, la guerre et toutes ses horreurs, la pauvreté et toutes les maladies. Il adjurait les dieux justes de confondre tous les Athéniens, jeunes et vieux, puissants et misérables. « Dans les bois, disait-il, la bête la plus féroce me traitera mieux que l'humanité. » Et, se creusant un caveau, il y vécut solitaire à la façon des bêtes, mangeant des racines sauvages, buvant de l'eau, fuyant tout être humain et préférant se mêler aux hôtes des forêts, moins dangereux, disait-il, et plus capable d'amitié que l'homme. Combien différent du Timon le riche et les délices du genre humain était ce Timon nu et haïsseur d'hommes. Où étaient ses flatteurs aujourd'hui? Où étaient ses courtisans et ses serviteurs? La froide bise, cette impétueuse servante, lui réchaufferait-elle, vigilante camérière, son linge glacé? Ces arbres aux troncs noueux qui avaient survécu aux aigles des monts, s'allaient-ils changer en jeunes pages fantastiques, prêts à voler à son signal partout où il lui plairait de les envoyer? Et ce froid ruisseau, quand l'hiver l'aurait couvert de glace, lui procurerait-il ses bouillons favoris et ses fins brouets qui le remettaient des excès d'une nuit de plaisir? Ou verrait-il les sauvages créatures qui habitaient ces bois venir lui lécher la main et le réchauffer de leurs caresses? Un jour qu'il cherchait des racines pour sa maigre pitance, sa bêche frappa un corps dur, qui se trouva être un monceau d'or, enfoui là sans doute, un jour de commotion publique, par quelque avare, mort depuis sans avoir pu retirer ce trésor de sa prison et sans avoir livré son secret. Et ce vil métal gisait là, dans les entrailles de sa mère la terre, n'y faisant ni bien ni mal, comme s'il n'en fût jamais sorti, jusqu'à ce que le hasard lui fît enfin revoir la lumière. Il y avait là, si Timon avait pu changer sa détermination, de quoi lui acheter à nouveau des amis et des flatteurs. Mais Timon était dégoûté du monde et de ses impostures, et l'or lui répugnait à l'égal d'un poison. Il eut donc volontiers rendu ce trésor à la terre. Mais il songea aux calamités infinies que l'or cause aux hommes, qui, pour l'amour de lui, volent, oppriment, commettent toutes sortes d'injustices, de violences et même de meurtres. Et son aversion pour ses semblables était à ce point enracinée qu'il prenait plaisir à penser que de ce monceau d'or qu'il avait découvert en creusant le sol pourrait sortir quelque fléau pour l'humanité. Or, à ce moment, passaient près de sa retraite des soldats qui se trouvaient faire partie des troupes d'Alcibiade, capitaine athénien maltraité récemment par le sénat de son pays. De tout temps, les Athéniens ont été fameux par leur ingratitude envers leurs généraux et leurs meilleurs amis. Alcibiade marchait donc contre eux avec la même armée triomphante qu'il avait autrefois commandée pour leur défense. Timon se montra satisfait de cette expédition et donna au capitaine tout son or pour qu'il en payât ses soldats, ne lui demandant en retour que de conquérir Athènes, de la raser à l'égal du sol et d'en mettre à mort tous les habitants par le fer ou le feu, sans épargner les vieillards à cause de leur barbe blanche, car, disait-il, ce sont des usuriers. Ni les enfants, à cause de leur sourire prétendu innocent, car, ajoutait-il, S'ils vivent, ils grandiront pour devenir des traîtres. Cuirasse donc, dit-il en terminant, tes yeux et tes oreilles, contre tout spectacle et tout bruit qui pourrait exciter ta compassion. Que les cris des vierges, des mères ou de leurs petits ne t'empêchent pas de massacrer tout être vivant dans la ville. Que tous soient confondus dans ton triomphe. Et quand tu les auras exterminés, que les dieux te confondent à ton tour, ô conquérant, car je vous hais tous, Athènes, les Athéniens et l'humanité. Un jour, pendant qu'il vivait ainsi dans le délaissement d'une existence plus animale qu'humaine, il fut soudain très étonné de voir, debout devant l'entrée de son caveau, un homme qui le considérait avec admiration. C'était Flavius, l'honnête intendant, que son amour et son zèle pour son maître avaient poussé à venir jusqu'à sa misérable retraite pour lui offrir ses services. À la première vue du noble Timon d'autrefois, réduit à une pareille abjection, nu comme à son entrée en ce monde, vivant comme une bête au milieu des bêtes, et qui semblait n'être plus que la triste ruine de lui-même, le brave serviteur était si affecté de cette monumentale décadence qu'il restait là sans voix, perdu dans son horreur et dans sa confusion. Quand il put enfin parler, les larmes l'étouffaient tellement que Timon eut beaucoup de peine à le reconnaître, ou du moins à se rendre compte de l'identité de cet être humain qui, contrairement à ce qu'il savait de l'humanité, venait lui offrir ses services dans l'extrémité où il se trouvait. Son premier soupçon fut qu'ayant la forme de l'homme, cet être devait pleurer faux et songer à le trahir. Mais l'excellent serviteur lui prouva de tant de manières que sa fidélité était réelle et lui démontra si clairement que l'affection seule et le sentiment de ses devoirs envers celui qui avait été jadis son maître bien-aimé, l'avait amené près de lui, que Timon fut forcé d'avouer que le monde contenait à tout le moins un honnête homme. Mais comme il ne pouvait voir sans horreur une face humaine, ni entendre sans dégoût des mots prononcés par des lèvres d'homme, force fut à cet unique spécimen d'honnêteté de se retirer, parce que, bien qu'il eût un cœur plus compatissant que celui des mortels ordinaires, néanmoins, il en avait la forme et les traits détestés. Mais des visiteurs autrement importants que le pauvre Flavius allaient interrompre bientôt la sauvage quiétude de la solitude de Timon. L'heure était venue pour les ingrats seigneurs d'Athènes de se repentir amèrement de l'injustice dont ils s'étaient rendus coupables envers lui. Alcibiade, en effet, semblable à un sanglier furieux, ravageait tout sous les murs de la ville et menaçait de la réduire en poussière, tant il l'assiégeait avec vigueur. Alors on se souvint de l'antique prouesse et des hauts faits d'armes de Timon qui, autrefois, s'était montré aussi vaillant général comme de guerre expérimenté, et l'on décida que de tous les Athéniens, il était le seul qui pût se mesurer avec la terrible armée qui les assiégeait et refouler les impétueuses approches d'Alcibiade. Une députation de sénateurs fut donc chargée de s'aboucher avec le solitaire. Dans leur extrémité, ceux qui, dans la sienne, lui avaient montré si peu d'égard, l'allèrent trouver comme s'ils comptaient sur la gratitude de l'homme qu'ils avaient maltraité et avaient droit à sa courtoisie par le fait même qu'il s'était montré envers lui si discourtois et si impitoyable. Les larmes aux yeux et avec l'éloquence du désespoir, il le supplie, le conjure de rentrer à Athènes et de sauver cette cité d'où leur ingratitude l'avait si récemment chassé. Richesse, pouvoir, dignité, réparation pour le passé, honneur public, amour de ses concitoyens, il lui offre tout. Ils mettent à sa disposition leur personne, leur vie, leur fortune, s'il consent seulement à les suivre et à les sauver. Mais Timon, le nu et le haïsseur d'hommes, n'était plus Timon, le seigneur plein de bonté, la fleur de la valeur athénienne, leur défenseur pendant la guerre, leur ornement pendant la paix. Alcibiade pouvait maintenant tuer tous les Athéniens, Timon n'en avait cure. Bien au contraire, si Alcibiade mettait Athènes à feu et à sang, et en massacrait les enfants et les vieillards, Timon s'en réjouirait. Et il le leur dit. « Il n'y a pas dans le camp des assiégeants, s'écria-t-il, un poignard que je n'estime bien au-dessus du gosier le plus révéré d'Athènes. » Voilà toute la réponse qu'il daigna faire au sénateur désappointé et tout en larmes. Cependant, au moment où ils allaient se retirer, il les pria de le rappeler au souvenir des Athéniens et de leur dire que pour apaiser leurs anxiétés, adoucir leur chagrin et prévenir les conséquences de la rage du terrible Alcibiade, il y avait encore un moyen. Tant était grande l'affection qu'il portait encore à ses chers concitoyens, à qui il voulait, avant sa mort, rendre ce dernier service. À ces mots, les sénateurs reprirent quelque courage. Sans doute, Timon sentait renaître en lui sa vieille affection pour leur ville. « J'ai, leur dit-il, près de mon caveau, un arbre que bientôt il me faudra abattre. J'invite tous mes amis d'Athènes, riches ou pauvres, qui désirent échapper à tout chagrin, à venir ici et à goûter de mon arbre avant que je ne le coupe. » C'était une façon élégante de les inviter à se venir pendre, remède décisif à tous les maux. De toutes les bontés qu'il eut pour l'humanité, celle-là fut la dernière. C'est aussi la dernière fois que ses concitoyens le revirent. Peu de jours après, en effet, un pauvre soldat, côtoyant la plage à peu de distance des bois où se tenait Timon, trouva sur le bord de la mer une tombe dont l'inscription indiquait que là reposait Timon, le haïsseur d'hommes, qui, disait ce document, avait détesté de son vivant tous les hommes et souhaitait, en mourant, qu'un fléau consumât tous les misérables qui lui survivaient. On n'a jamais su bien clairement si Timon se donna violemment la mort ou s'il fut emporté par le dégoût de la vie et l'aversion qu'il avait pour son espèce. Néanmoins, tout le monde admira la justesse de son épitaphe et combien sa fin s'accordait avec ses principes puisqu'il était mort comme il avait vécu, en haïssant le genre humain. Il ne manqua même pas d'Athéniens qui crurent voir une épigramme jusque dans le choix qu'il avait fait du bord de la mer pour son lieu de sépulture, comme s'il avait voulu par là que l'océan pût à jamais pleurer sur sa tombe et témoigner ainsi de son mépris pour les pleurs aussi futiles qu'éphémères de l'hypocrite et trompeuse humanité.